Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir noté ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui pour une émission au cours de laquelle vous pourrez entendre Catherine Ney, journaliste politique qui a fait paraître le tome 2 de ses mémoires intitulé « Tu le sais bien, le temps passe, souvenirs, souvenirs », c'est aux éditions Bouquin. Nous avons rencontré Catherine Ney le 20 décembre dernier à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Et effectivement, le tome 1 des mémoires de Catherine Ney avait remporté un très gros succès et la suite de ses mémoires était donc attendue avec beaucoup d'impatience. Et dans ce tome 2 des mémoires, Catherine Ney couvre les années 1995-2017, c'est-à-dire l'élection de Jacques Chirac jusqu'à celle d'Emmanuel Macron, et elle passe en revue 30 ans de vie politique et journalistique, mais aussi personnelle, puisqu'elle revient notamment sur la mort de l'homme de sa vie, Albin Chalandon, qui est mort en juillet 2020, et elle évoque aussi la mort de ses parents et de l'un de ses frères. Mais dans l'entretien que nous allons vous proposer aujourd'hui, on va aussi effectivement revenir sur de hautes personnalités, parfois complexes, de la vie politique française. François Mitterrand, Jacques Chirac, Bernadette Chirac, qui est un personnage haut en couleur et pittoresque, une femme lunatique mais originale. Nous reviendrons aussi sur Alain Juppé, sur Nicolas Sarkozy, que Catherine Ney connaît bien. Et elle expliquera d'ailleurs ce qui fait la force et la faiblesse de Nicolas Sarkozy dans sa vie publique ou privée, parfois d'ailleurs à son détriment. Et puis elle a aussi quelques pages, mais vous l'entendrez, elle est un peu sans concession, avec François Hollande. C'est donc au programme de votre émission littéraire aujourd'hui sur Radion. On commence et on ouvre l'émission en musique et en chanson. Et juste après, vous pourrez entendre l'entretien avec Catherine Ney. Je rappelle le titre de ses mémoires, c'est le tome 2. Tu le sais bien, le temps passe, souvenir, souvenir.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour.
Alors vous avez fait paraître au mois de novembre le tome 2 de vos souvenirs intitulé « Tu le sais bien, le temps passe ». Le tome 1 avait paru en 2019 et effectivement avec ce tome 2, vous couvrez les années Chirac, la fin des années Chirac, jusqu'à l'élection
de Jacques Chirac, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron.
Alors, vous connaissez bien Jacques Chirac.
Oui.
Nicolas Sarkozy, vous lui avez consacré deux livres, dont
oui.
une biographie. Et puis, effectivement, vous parlez alors d'un très grand nombre d'hommes politiques qui ont été sur la scène politique et médiatique durant de nombreuses années. Certains, d'ailleurs, se sont un peu éclipsés ou prennent une retraite.
Oui, parce que c'est 25 ans d'histoire.
On est bien d'accord.
Ouais.
Alors, vous parlez du... Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous nous dites sur Bernadette Chirac, qui est un personnage haut en couleur, une femme pas toujours facile non plus. Lunatique.
C'est un grand personnage. Et moi, je pense que même dans le trio père-fille, moi je disais le père, la fille et le Saint-Esprit, c'est la personnalité la plus originale et qui a été écartée du pouvoir, si l'on peut dire, dès l'élection de son mari, parce que sa fille trouvait qu'elle faisait un peu ringarde, un peu trop mémère, et qu'elle nuirait à l'image de son père. Voilà. Donc c'est une femme qui en a beaucoup souffert, que je rencontrais chez le coiffeur et avec qui j'avais toujours des échanges très... Mais enfin, je la connaissais depuis très longtemps. Et qui se plaignait de sa fille, de la vie, des infidélités de son mari. Elle disait des tas de choses. Et c'est une personnalité toujours très amusante, qui est d'abord une femme politique, parce que son mari lui a demandé d'être conseiller général de la Corrèze, ce qu'elle a fait, où elle s'est impliquée. Elle a été élue, réélue 5 fois de suite. Vous voyez, elle connaissait très très bien le terrain. Et peu à peu, elle s'était prise au jeu et se promenait partout dans son département, au volant de sa Peugeot rouge. Et elle avait des remontées du terrain. Elle savait très bien ce qui se passait, quelles étaient les attentes de la population, ses souffrances, ses colères. Et donc, elle pensait qu'elle était vraiment un très bon lien entre son mari et la France profonde. Et lui ne l'écoutait pas, ce qui la faisait enrager souvent. Et en tout cas, elle lui avait prédit en 2002 une grosse avancée du Front National, ce qu'il ne croyait pas, et elle avait vu juste.
En tout cas, elle joue son rôle. Vous racontez que la nuit où la princesse Diana trouve la mort sous le pont de l'Alma...
Oui. Mais Jacques Chirac...
On veut prévenir le président de la République française que la princesse Diana...
Et Jacques Chirac était injoignable.
Ah.
Voilà.
Et là, il y a un mystère. Où était passé Jacques Chirac?
Ah oui, ça, je ne sais pas, parce qu'à l'époque... c'était Jacques Chirac vivait, c'était en 2017, en août 2017, et les Chirac n'habitaient pas encore complètement à l'Élysée parce qu'ils avaient fait faire des travaux. Ils habitaient toujours à l'hôtel de ville parce qu'après après François Mitterrand, il y avait des travaux à faire dans l'Élysée. Donc Jacques Chirac y habitait, il y avait, mais pas encore le couple, et elle vivait toujours à l'hôtel de ville. Et cette nuit-là, il avait, oui, c'est vrai, on avait eu du mal à le joindre. Où était-il? Mystère, mais du coup. Je ne sais pas si Bernadette a su où il était, mais cette absence avec un chauffeur qui évidemment ne voulait pas trahir son maître, eh bien c'est le chauffeur qui a payé, qui a été écarté par Bernadette.
Alors autre mystère, c'est celui de la personnalité du meilleur d'entre nous, comme disait Jacques Chirac, c'est Alain Juppé. Où vous expliquez pour quelles raisons, alors cet agrégé de lettres classiques est tout de même un homme...
Normalien.
Un homme cassant, distant.
C'est quelqu'un qui avait un caractère un peu rude, qui a été un très bon ministre des Affaires étrangères, qui a été un grand maire de Bordeaux, mais qui a été désigné par Jacques Chirac comme Premier ministre. D'abord, quand il est arrivé au pouvoir en 1995, il venait d'être ministre des Affaires étrangères pendant 2 ans. Il avait sillonné le monde, il était un peu fatigué, il n'était peut-être pas préparé, ce qui l'a amené à faire des erreurs. Et puis, comme communicant, c'était quelqu'un d'un peu cassant, peut-être le résultat d'une éducation où sa mère l'avait éduqué dans l'idée qu'il était vraiment le meilleur, le plus fort, et qu'il était... D'ailleurs, elle lui fouettait les mollets quand il n'était pas premier, parce qu'elle disait qu'il avait les capacités d'être toujours. Une institutrice venait à ses côtés pour le faire travailler tous les soirs et trépigner en disant « Mon Dieu, cet enfant est intelligent ». Et c'est vrai, quand on a une enfance où on est adulé par sa mère et puis par une institutrice, c'est vrai que ça ne... on pense que lorsque l'on a parlé, on n'a pas besoin, les autres n'ont pas beaucoup besoin d'intervenir après, voyez. Donc il y avait ce caractère-là, et puis c'est vrai que il est arrivé avec une gageure assez difficile. Il fallait que la France se qualifie pour l'euro, donc tout de suite il a dû serrer la vis, ce qui était contraire aux promesses de Jacques Chirac de la fracture sociale, où on s'attendait à une gestion plus dispendieuse. Et donc ça a un peu brouillé les cartes, et lui-même a réussi quand même à faire une réforme de la sécurité sociale, mais à laquelle il a ajouté, en n'écoutant pas les conseils, la réforme des régimes spéciaux qui a déclenché les grandes grèves dont vous vous souvenez en 1995. Donc sa popularité n'a fait que décroître. Mais Jacques Chirac voulait le garder absolument parce que c'était un homme dans lequel il avait confiance, qu'il savait loyal, d'humeur égale avec lui, pratique, corvéable à merci. Et dans le fond, il ne voyait pas par qui il pourrait le remplacer à Matignon, parce que les gens de la génération d'Alain Juppé, que ce soit Philippe Séguin, qui était quand même un homme assez tourmenté, disons même caractériel, qui menaçait de démissionner, qui avait des crises de violence, ne répondait pas toujours au téléphone. Donc Jacques Chirac, dans le fond, aurait bien passé tout le quinquennat avec Alain Juppé. Mais son impopularité a fait que... Alors là, on ne sait pas comment qu'il l'a décidé. Je pense que Dominique de Villepin y est pour quelque chose, qui était secrétaire général de l'Élysée, pensant que si on faisait le grand choc d'une dissolution, c'est-à-dire qu'on avancerait d'un an les élections législatives pour prendre le nouvel élan pour se qualifier pour l'euro, eh bien cet oxygène d'une réélection de l'Assemblée redonnerait une majorité à la droite pour mieux rebondir. Et finalement, ça a été un mauvais calcul.
Il n'en fut rien, oui.
Une expérimentation très hasardeuse qui a conduit Chirac à subir une cohabitation qui aura duré 5 ans. Et d'ailleurs, on le moquait, on disait Chirac a inventé le septennat qui dure 2 ans.
C'est la journaliste et chroniqueuse politique Catherine Ney qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio On. Je rappelle le titre du tome 2 de ses mémoires, paru courant novembre de l'année dernière. Tu le sais bien, le temps passe. Souvenir, souvenir, c'est chez Bouquin Édition. Nous marquons un nouvel intermède musical et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes avec notre invitée Catherine Ney.
Planté
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Radion, c'est votre émission littéraire et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir la journaliste politique Catherine Ney, qui a fait paraître le tome 2 de ses mémoires aux éditions Bouquin et qui a pour titre « Tu le sais bien, le temps passe, souvenir, souvenir ».
Alors vous parlez aussi beaucoup des relations Jacques Chirac et Lionel Jospin. Oui. Finalement, Lionel Jospin, je l'ai découvert sous un œil peut-être plus réel à travers ce que vous en dites, parce que moi j'avais l'image de quelqu'un d'assez droit, très ferme, et finalement... Jospin déteste Chirac, en fait.
Ah ben ça, c'est un grand classique dans les cohabitations. Les présidents et les premiers ministres finissent par se détester. Bon, mais surtout, c'est pas ça l'intéressant. C'est que Jospin est arrivé avec l'idée qu'il allait réaliser son rêve, c'est d'être le socialiste qui accomplirait le rêve et qui serait le grand socialiste du 21e siècle. Ce que n'avait pas été au 20e siècle et... Léon Blum, dont on parle toujours, ce qu'a été le miracle de 36, voilà, le Front populaire, mais qui n'a duré qu'une seule année. Il n'est resté au pouvoir qu'une seule année. Et là, il avait évidemment choisi, c'était pas les 35 heures, mais c'était les 40 heures payées 48 heures. Mais ça coûtait tellement cher, on était proche de la guerre, et ça n'a duré ce miracle n'a duré que quelques mois et un an plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Mais ses dépenses, enfin voilà, il est resté les congés payés, qui est sûrement une bonne chose. Et Lionel Jospin trouvait que Mitterrand au pouvoir n'avait pas rempli les conditions, n'avait pas tenu toutes les promesses annoncées par les 110 propositions. Donc il s'était dit, moi je vais faire... Ce que Mitterrand n'a pas fait, c'était les 35 heures. Et c'est lui qui a mis, enfin parce qu'il pensait que c'était un désir des ouvriers de travailler 35 heures, d'avoir des loisirs, que c'était le sens de l'histoire. Et on s'est aperçu que Marcel Aubry, qui au départ était contre, les a organisés de telle manière sans discuter avec les partenaires sociaux, avec vraiment en se moquant des patrons qui voulaient négocier, essayer d'aménager des choses particulières selon la taille des entreprises. Elle a absolument mis tout le monde sur la même jauge. Ça a créé beaucoup d'inconvénients pour la compétitivité des entreprises, mais surtout, on s'est aperçu que au départ, avec ces 35 heures, les ouvriers qui ne pouvaient plus faire d'heures supplémentaires avaient peut-être des loisirs, gagnaient moins d'argent, et du coup, ils sont tous partis au Front National. C'est comme ça que la gauche a perdu le vote ouvrier.
Vous rappelez bien sûr le 21 avril 2002, alors que Jospin était... presque sûr de gagner contre Chirac. Enfin, son camp pensait qu'une alternance devait arriver et que Chirac serait battu.
Oui, tout le monde, enfin, il le croyait. Les sondages, jusqu'à un an avant l'élection, le portaient au pinacle. Mais on voyait bien qu'il y avait eu des fêlures pendant ces 5 années. D'abord, la Dream Team. Vous savez, tous les grands ministres étaient partis pour des raisons diverses. Strauss-Kahn avait démissionné parce qu'il était pris dans un scandale, entre guillemets, de l'AMNEF. Chevènement a démissionné parce qu'il ne supportait pas, il n'appréciait pas, d'ailleurs il ne tolérait pas le nouveau statut de la Corse qui avait été négocié pendant que lui avait eu, vous savez,
il s'était retrouvé dans le coma.
Dans le coma pendant 3 mois, et c'était Matignon qui était à la manœuvre, et donc il n'a pas voulu être celui qui ferait voter ce statut particulier de l'île, donc il est parti. Martine Aubry a décidé comme ça, elle en a, de quitter le gouvernement pour aller se préparer pour l'île. C'est-à-dire que même Voynet, la ministre de l'Environnement, partait pour préparer la présidentielle. Moyennant quoi, avec cette majorité plurielle, on a vu que plus la présidentielle arrivait, chaque composante de la majorité se préparait à la présidentielle, avait son candidat, et même les radicaux de gauche avaient été chercher quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille, qui était Christiane Taubira, si bien que lorsque Jospin s'est présenté, il avait déjà face à lui 4 candidats contre lui, qui étaient ceux de sa majorité présidentielle dont il était si fier, sa majorité plurielle. Et d'ailleurs, à eux quatre, ils ont fait 16%, et qui sont sûrement la cause de son échec, entre autres, de la présidentielle. Et puis il a fait une très mauvaise campagne, il faut le dire. Et puis il a prononcé cette phrase sur Chirac, il était vieilli, usé, et ça lui a été fatal.
Et Chirac d'ailleurs avait dit, moi vieux, mais je peux encore faire l'amour deux fois de suite, une fois l'été, une fois l'hiver.
Oui, ça vous a plu, je vois que vous avez retenu cette phrase. Oui.
Ça m'a fait sourire.
Oui, il y a toi.
Mais c'est très la bouche de notre ancien président, cela ne m'étonne pas de lui.
Il était comme ça, voilà, il aimait les phrases paillardes, et donc et il est remonté sur sa bête. Alors qu'il était pas sûr du tout de l'emporter 6 mois avant. Alors,
Chirac aimait peut-être les phrases paillardes, pas autant que Dominique de Villepin, homme, alors une séduction magnifique, vraiment un très bel homme, de grande taille encore, vous ne cachez
pas. Aristocrate, distingué, et qui avait un parler cru, même quelquefois un peu souvent salace même. Et voilà ce qui faisait son charme, qui traitait tous les députés de connards. Et c'est lui à qui on doit quand même la dissolution. Et les députés lui en voulaient beaucoup.
Mais... Et Bernadette Chirac également.
Ah oui, elle l'appelait Néron. Elle disait qu'il mettait le feu partout. Alors qu'elle avait bien vu les dangers de la dissolution. Ouais.
Et vous dites, au moment où Dominique de Villepin, donc il est ministre des Affaires étrangères, le 14 février 2003, devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
Là, il était ministre des Affaires étrangères quand il a fait ce grand discours de la France, mon vieux pays. Que voilà, on était tous très fiers, c'est-à-dire pour s'opposer à la guerre en Irak.
Voilà.
Ça a été, il y a vraiment un vent de fierté qui a soufflé en France sur cet homme si beau qui avait écrit le texte, qu'il avait fait, bien sûr, revu et corrigé par l'Élysée, mais qui montrait que la France refusait de s'engager dans la guerre en Irak. Et d'ailleurs, Jacques Chirac avait tout à fait prévenu Bush en disant « Écoutez, vous gagnerez la guerre ». Et c'est vrai, elle a duré 40 jours. Et après, les Américains ont tout cassé. Mais après, il fallait reconstruire. Et il lui avait vraiment annoncé les malheurs qui s'en suivraient sur le terrorisme et sur le casser un monde déjà très compliqué et qu'il ne rajouterait que du désordre au désordre. Et là, Villepin avait fait entendre sa voix, mais de tout le monde, sauf des Américains.
Je vous propose, Catherine Ney, de marquer un nouvel intermède musical. Si vous venez de nous rejoindre, c'est effectivement la journaliste politique Catherine Ney qui nous accompagne aujourd'hui sur Radion à bord de votre émission littéraire. Elle a fait paraître le tome 2 de ses mémoires aux éditions Bouquin sous le titre « Tu le sais bien, le temps passe, souvenir, souvenir ». Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez très rapidement, via Internet, retrouver l'intégralité de notre entretien sur yannickpetit.fr. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes.
Le bitume du parking est brûlant. Quelques shots et les spots font la rétine colorée.
Tu ondules et je sais que les gens aiment te regarder. Tu souris à pleines dents, moi je croque dans ton cou mouillé. On tangue comme le mât d'un bateau dans la houle. Nos langues se bousculent comme les gens dans la foule. Avance, je joue à l'ombre qui recule. On danse, j'aime tes mains courant sous mon pull.
Et
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. C'est la journaliste politique Catherine Ney qui nous accompagne aujourd'hui. Je rappelle que le tome 2 de ses mémoires sont sortis en librairie courant novembre de l'année dernière. Ce tome 2, très attendu, a pour titre « Tu le sais bien, le temps passe, souvenir, souvenir ».
J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous dites de François Mitterrand. Vous lui aviez aussi consacré une biographie.
Deux livres même, oui.
En 84, c'était chez Grasset, Le Noir et le Rouge, ou L'Histoire d'une ambition.
Oui.
Vous ne l'avez pas beaucoup rencontré, François Mitterrand.
Mais c'est-à-dire que quand j'ai fait une biographie, j'avais décidé de ne pas le voir. Parce que je me disais, un homme qui vient de la droite, qui est arrivé dans la Nièvre, amené par le marquis de Roal, qui était contre les nationalisations, qui était, vous voyez, et qui, donc il s'est fait élire sous cette étiquette plutôt à droite, et sous la quatrième, il était le patron de l'UDSR, qui était un petit parti charnière, ce dont on avait besoin pour toutes les majorités, quoi. Donc il était sûr d'être au gouvernement. Donc il s'était imposé comme un homme habile, qui rêvait d'être président du Conseil. Et peut-être, si De Gaulle n'était pas arrivé, si la guerre d'Algérie n'avait pas pris l'ampleur qu'elle prenait, aurait peut-être fini par être président du Conseil, auquel cas il aurait peut-être déjà été aujourd'hui oublié par l'histoire. Mais l'arrivée de De Gaulle, en se posant comme opposant numéro un à De Gaulle, il s'est créé comme ça une personnalité. Il l'a mis en ballottage en 65 parce que les socialistes n'avaient pas de personnalité assez forte à opposer au général. Et donc le fait d'avoir mis De Gaulle en ballottage lui a fait une aura qui lui a permis après de s'imposer, devenir le patron du Parti Socialiste, d'ailleurs alors qu'il n'avait jamais eu sa carte du parti. Donc c'est quand même, et en usant de stratagèmes assez, donc qui montrait que c'était une personnalité politiquement très madrée, très, très, très forte, et qui a réussi à la troisième tentative non seulement être président de la République, mais y faire la durée la plus longue, puisqu'il a fait deux septennats, c'est-à-dire 14 ans.
François Mitterrand disait, je crois aux forces de l'esprit, vous aussi, vous en parlez au moment du décès de votre maman, vous en parlez dans ses mémoires, parce que vous parlez aussi d'Europe 1, vous avez longuement travaillé à Europe 1, vous expliquez le changement de direction et les conditions assez difficiles de la nouvelle direction. Vous parlez d'Albin Chalandon, qui a été l'homme dans votre vie et qui vous a quitté aussi l'an dernier. Pardon d'évoquer ces choses très tristes, mais vous, dans ses mémoires, vous rappelez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui partent, que la mort emporte.
Que la mort emporte, parce que quand on prend de l'âge, vous savez, au début, le premier tome, et encore, je raconte dans mon premier tome ce désastre familial, ce chagrin fou de la perte d'un frère à 23 ans qui nous avait dévastés. Et puis après, les années passent. Et pendant les années que je raconte, ces 25-là sont partis mon père, mon frère aîné, puis mon meilleur ami, je le dis chronologiquement, puis ma mère et enfin mon mari en juillet 2020. Donc ce sont c'est des choses que je raconte parce que même quand vous voyez, il y avait un moment où dans mes souvenirs, bon, j'ai beaucoup de cahiers, j'ai fait beaucoup d'éditos, mis beaucoup de choses vues, mais je me souviens dans les années 97, j'avais un blanc au moment d'écrire, je me disais c'est bizarre, et puis j'ai dit mais bien sûr, c'était les moments de chagrin fou, parce que en 97 et en 98, presque jour pour jour, j'ai perdu mon frère et mon père, vous voyez. Donc, mais je crois que c'est ce qui arrive à tout le monde. Et quand j'ai amené mon père et ma mère pour la première fois, pour une durée qui devait être courte, c'est-à-dire l'été dans une maison de retraite, j'ai compris ce qu'était que voilà, mettre ses parents dans une maison de retraite. Et voilà, c'est des...
Alors quand vous écrivez « Je croise aux forces de l'esprit oui. », Catherine Ney, est-ce que je peux vous demander de développer un petit peu?
C'est-à-dire aux forces de l'esprit, c'est-à-dire que les gens que vous aimez s'en vont, mais si vous les portez en vous, si vous prolongez dans votre voilà, dans votre cœur le dialogue avec eux, ben vous avez l'impression que peut-être sans vous répondre, ils maintiennent une présence et qu'ils sont toujours là. Voilà ce
D'accord.
que ça veut dire.
Est-il vrai? Alors, c'est amusant cette histoire de marron que vous avez reçu sur la tête alors que vous êtes un tout petit bébé dans un landau. C'est amusant cette anecdote.
Oui, oui, oui. Je raconte que, lorsque j'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinairement aimante, je veux dire, compréhensible pour ses enfants qui nous a élevés avec énormément de douceur et de fermeté douce. Vous voyez, alors quand quand j'étais malade, voilà, où elle se dévouait à ses enfants et on était son préféré quand on avait la grippe, voilà, ou une angine. Bon, ben j'exigeais de faire ma convalescence dans son lit à sa place pendant le jour et elle me donnait un tiroir de son armoire dans lequel il y avait tous les trésors que je trouvais formidables. Il y avait des petites boîtes, des médailles, enfin des tas de choses et un marron. Bon. Et elle me racontait que c'était un marron que j'avais reçu sur la tête quand j'étais bébé et que j'avais une bosse, j'avais beaucoup pleuré.
Lancé par un gamin qui se trouvait...
Par un gamin qui ne m'avait pas visé spécialement, mais elle était tombée sur moi et que j'avais beaucoup pleuré. Et alors elle le gardait. Et puis moi, quand j'avais 5-6 ans, je voulais absolument qu'elle me raconte l'histoire pour m'assurer qu'elle avait eu beaucoup de chagrin et que ça avait été un événement important dans sa vie. Voilà, mais c'est... Vous voyez, c'est venu comme ça sous la plume quand j'ai parlé de ma mère sur... mais c'est les détails d'une vie qui font aussi les souvenirs. Et...
Avant que de parler de Nicolas Sarkozy, pour lequel vous ne cachez pas une vraie admiration.
C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, je l'ai rencontré lorsqu'il a fait son premier discours en 1975, vous voyez, donc, et c'était aux Assises de Lille,
de Nice.
Et c'était après un discours de Michel Debré qui parlait toujours pendant 1h30 et qui était très tonitruant, qui annonçait tous les malheurs qui pourraient arriver à la France, surtout s'il n'était pas au gouvernement, et donc les militants adoraient, voilà. Mais après un discours, l'assistance était là, c'est n'avait qu'une envie, c'est un peu aller respirer, boire une bière, se dégourdir les gens. Et donc c'était des moments creux qu'il fallait combler, et on faisait monter des jeunes, vous voyez, à qui on donnait 10 minutes. Et Nicolas Sarkozy, qui avait été repéré par Pasqua, alors qu'il était militant depuis un an, mais il s'était déjà fait remarquer à la permanence par son entrain, par son désir de militer, de faire venir des jeunes, alors que vous voyez, entre 1974-1975, alors que Giscard était élu, les gaullistes, vous voyez, les gaullistes étaient plutôt en perte de vitesse. Et donc, on lui avait demandé de parler, et je m'en souviens, alors que tout le monde se levait, il a pris le micro et tout d'un, toute la salle s'est rassise parce qu'il avait un talent de saisir la salle, de dire des choses qui... Voilà, alors je ne me suis pas dit, tiens, c'est un futur président de la République, mais je me suis dit, tiens, celui-là, il a vraiment du talent. Et puis après, je l'ai suivi, enfin, plus ou moins de près, j'ai vu qu'à 28 ans, il était maire de Neuilly, dans des circonstances particulières, mais enfin, c'est parce que depuis 7 ans qu'il était au conseil municipal, il s'était fait remarquer par sa disponibilité, son travail... sa gentillesse, sa manière de traiter avec courtoisie les anciens. Et donc, après la mort d'Achille Peretti, qui est mort 3 mois après cette 5e ou 6e réélection, ben c'est lui qui a été élu, parce que tout le monde le connaissait, alors que Charles Pasqua avait été inscrit sur la liste que 3 ou 4 mois avant l'élection, parce qu'il venait juste d'habiter Neuilly, vous voyez, donc, et le conseil municipal ne voulait pas de Pasqua. Donc, il a été élu contre l'avis de Jacques Chirac, qui a essayé de le dissuader, il a dit non. Après, il a été élu député, toujours contre l'avis de Chirac. Donc, il s'est vraiment forgé lui-même, voyez, sa capacité à franchir l'échelon du pouvoir. Mais sa force, c'est que ce talent, cette imagination, Chirac s'est beaucoup servi de lui parce que pour préparer les réunions, et puis même sa campagne, il était un peu l'apporteur d'idées. Donc Jacques Chirac comptait sur lui c'était le meilleur employé, si je veux dire, entre guillemets. Bon. Et puis Nicolas Sarkozy, après l'échec de 88, a demandé à Édouard Balladur à travailler avec lui, hein, qui avait été ministre d'État, qui avait fait les privatisations, pensant qu'auprès de lui, il apprendrait quelque chose. C'est-à-dire qu'avec Chirac, il apportait des idées. Avec Balladur, il a eu l'impression que Balladur, au contraire, lui apportait une réflexion et le considérait. Voilà. Il y avait un échange avec lui. Et puis, il a bien vu que, comme il allait les élections seraient gagnées en 93, qu'il serait Premier ministre, lui, il espérait être ministre, ce qu'il a été, puisqu'il avait même il était porte-parole, ministre du budget, puis il avait succédé à... J'ai oublié son nom, qui était pris dans une affaire, le ministre de la Communication. Et donc, à un moment, il a fallu choisir. Et il a choisi Balladur parce que les sondages étaient tels qu'il pensait qu'il serait élu en 95 et que ça ne serait pas Chirac. Mais Chirac ne lui a pas pardonné. Alors, c'est parce que... Alors qu'il est venu lui dire... Il lui a dit, ben non, je choisis Balladur. Mais pour Chirac, alors bien sûr, qui avait fait entrer Sarkozy dans son intimité, il était très proche de Claude, enfin tout le monde comptait sur lui. Et quand il a quitté Chirac, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de leader pour organiser ce petit groupe. Mais Chirac lui en a voulu parce que c'était presque une blessure en fait, d'amitié, mais surtout d'amour propre. Parce que Sarkozy lui signifiait que dans le fond, il trouvait que Balladur était plus capable que lui. Il l'admirait plus intellectuellement que lui. Et ça, c'est impardonnable. Il ne lui a jamais pardonné, quoi, en fait.
Et alors, Nicolas Sarkozy, oui, est élu président, on le sait, en 2007, du premier coup, comme vous dites, ce qui ne fut pas le cas pour François Mitterrand ou Chirac, avec son fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Et c'est vrai que...
Et c'était bien ce que voulaient les ouvriers, vous voyez. Avec les 35 heures, ils étaient malheureux parce qu'ils ne pouvaient plus en faire, bon.
Oui, et puis en plus, oui, François Hollande détricotera tout ce que Sarkozy... alors que des gens modestes ont perdu de l'argent, en fait.
Exactement.
C'était assez surprenant, je le conçois. Alors, vous parlez longuement de Cécilia, donc l'épouse de Nicolas Sarkozy, président de la République. Il faut dire qu'elle avait été... Elle avait été mariée avec une autre figure des médias, Jacques Martin.
Oui, mais c'est-à-dire que toute la vie de Nicolas Sarkozy, il a eu la ville de Neuilly à l'arraché, son siège à l'arraché, et cette femme, alors qu'il était marié, il est tombé amoureux d'elle le jour où il l'a mariée à Jacques Martin. Hein, alors que c'est comme un coup de foudre alors qu'elle allait accoucher 10 jours plus tard. Or, c'est pas toujours à ce moment qu'une femme, 10 jours avant d'accoucher, est peut-être le plus séduisante. Mais je sais pas, il y avait ce regard, il y a vu comme une... Ce regard de chatte égyptienne, une belle femme, il s'est dit pourquoi c'est moi et pas lui. Et puis les deux couples, il avait été tellement le louangeur pour le mari qu'ils sont devenus très amis. Lui-même était marié et avec Marie qui était une fille qu'il aimait beaucoup. Et puis voilà, c'est un coup de foudre et Cécilia a quitté Jacques Martin et lui a eu plus de mal à quitter sa femme, ses deux enfants. Enfin, c'était dur, ça a été une épreuve, mais il était fou amoureux de Cécilia.
Et dans vos mémoires, donc souvenir de « Tu le sais bien, le temps passe », vous montrez que Nicolas Sarkozy, finalement, en divorçant, alors qu'il est président de la République, et ça c'est un fait totalement unique dans l'histoire des républiques françaises. Bon, Napoléon avait répudié Joséphine, certes, mais Nicolas Sarkozy a été très très malheureux. C'était vrai, terriblement malheureux.
Oui. D'ailleurs, moi je me demandais comment il allait tenir le choc, de à la fois mener la campagne, Sa femme ne vivait plus avec lui pendant la campagne. Il l'avait caché à tout le monde, y compris à ses enfants, à sa famille. Enfin, et il fallait brûler du pétrole pour tenir ses réunions. Et enfin, il était. Et ça a été une épreuve terrible pour lui. Mais il s'est dit, si je suis. Parce qu'elle lui avait dit, dès que tu seras élu, je me tire. Et finalement, il a tout fait pour la retenir. C'est-à-dire qu'il lui a cédé énormément de choses en espérant la récupérer. C'est-à-dire qu'il avait, loué des chambres, fait louer des chambres en Corse pour aller se reposer en famille. Elle n'a pas voulu y aller. Ils sont partis sur le bateau Bolloré. Le soir de l'élection, c'est elle qui avait choisi le Fouquet's parce qu'elle avait demandé au patron, au propriétaire du Fouquet's, de l'accueillir chez lui, Nicolas Sarkozy, pendant la campagne, puisqu'ils ne vivaient plus ensemble à Neuilly. Donc le Fouquet's, encore, alors qu'il n'y avait jamais ses habitudes, il n'y allait jamais. Nicolas Sarkozy, ce n'était pas un restaurant où il allait. Hein, où il se... surtout les vacances aux États-Unis. C'était la première fois qu'un président, à peine élu, un Français, part aux vacances aux États-Unis. Et avec l'humiliation terrible de Cécilia de ne pas aller à l'invitation des Bush pour montrer à son amant qu'il était sur les charatias. Donc c'est... Et ça a été des gestes. D'abord, ça a fait de lui un président bling-bling. Ça a complètement... Puis la douleur, il avait un caractère quand même qui était... Il avait des emportements qui... Voilà, ce malheur faisait qu'il était devenu très irascible et assez violent dans ses propos devant ses collaborateurs. Ça a été une mauvaise période pour lui, mais c'est sûr que ce divorce lui a fait complètement rater les débuts de son quinquennat.
Et vous l'écrivez qu'il y a malheureusement des aspects un peu navrants chez Sarkozy, certaine incapacité à gérer à la fois parfois ses propos.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un conflit, ça c'est évident, et qui était encore plus aiguisé puisqu'il avait, c'était un homme malheureux, qui a un conflit entre son caractère, enfin entre son intelligence, qui est quand même, il a la vista, c'est quand même une intelligence un peu supérieure, disais-je, un peu hors norme, et ce tempérament trop fougueux qui, voilà, et c'est un conflit entre ces deux choses un peu extraordinaire.
Ouais. Alors, une présidence aussi de l'Europe, où Sarkozy s'est montré admirable face à la crise financière et boursière qui allait jeter toutes les banques européennes dans la catastrophe.
Oui, il a été, d'ailleurs c'est l'avis unanime en Europe, sa présidence européenne a été quelque chose de... où il a tout de suite compris ce qu'il se passait, ce qu'il fallait. Enfin, je le raconte en détail, je ne vais pas vous le raconter là, mais c'est d'ailleurs...
Très passionnant, effectivement. Ouais. Et puis en plus, il est exigeant, quoi. Il ne laisse pas le temps aux gens, il est même autoritaire, sûr de lui, mais il ne s'est pas trompé.
Il ne s'est pas trompé, oui. Ça, non, il a été exceptionnel dans cette gestion de...
Il y a le temps des affaires aussi. Vous parlez d'Edwy Plenel, de Mediapart. Et vous écrivez aussi dans vos mémoires, l'acharnement de la justice et de Mediapart contre lui, donc contre Sarkozy, m'interpelle toujours.
Ben oui. C'est que Mediapart sorte cet argent libyen après la promesse qu'il avait faite à Hollande, hein, son grand copain, qui lui demandait, alors tu l'arrêtes pas encore arrêté le délinquant, vous voyez. Mais sortir le document sur l'argent libyen entre les deux tours de la présidentielle, un dimanche, vous voyez, le dimanche juste avant le deuxième tour. Nicolas Sarkozy a porté plainte pour usage de faux. Et la justice, le premier juge a dit, c'est probablement un faux parce que on ne pouvait pas prouver que c'était un vrai. Parce que la Mediapart avait une photocopie. Donc un document qui datait d'avant 2007, puisqu'il était soupçonné d'avoir reçu 50 millions de Kadhafi pour sa campagne de 2007, alors qu'une campagne normalement doit coûter 20 millions, on se demandait pourquoi 50 millions, c'était une photocopie. Donc si c'était un papier d'avant 2007, si on avait vu l'original, on peut dater aujourd'hui de quand date. Oui, le papier, les voilà. Et là, en donnant une photocopie, on ne pouvait rien prouver. Mais la justice a dit que Mediapart ne pouvait pas savoir, en ayant une photocopie, que c'était un faux et donc ils n'ont pas été condamnés. Donc après ce premier jugement, ils ont fait appel. L'appel, parce que les juges ne se déjugent jamais, faut le savoir, même conclusion. Il a été plus loin parce que lui, jamais. Et la Cour de cassation a rejeté ce dernier appel et en plus lui a demandé de payer une amende à Mediapart, à Fabrice Arfi et à Plenel, ce que moi je trouve absolument, mais quand même extraordinaire. Takieddine, qui dit que Sarkozy a touché beaucoup d'argent des valises, donc il y a une enquête du PNF qui était créée par
François Hollande,
et les juges ont pu aller avec une débauche de billets d'avion, sont allés enquêter en Irak, en Libye, en Tunisie. Là, il y avait tous les anciens du pouvoir et puis ils sont revenus sans preuve tangible, vous voyez. Et donc, ils ont écouté Sarkozy pendant 4500 heures et ça se termine sur l'histoire d'Azibert. Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi je peux dire que Sarkozy, d'une certaine manière, a été tué par Mediapart et les juges. Oui.
Alors on parle du président dit normal, lui aussi, vous ne lui faites pas de cadeau à François Hollande, donc élu.
Parce que vous lui en faites, vous ?
Non, mais moi j'ai souri, donc je rappelle... François Hollande élu en 2012, vous écrivez « Je n'avais jamais imaginé François Hollande en président de la République ».
C'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui était premier secrétaire et qui, avant d'être premier secrétaire, était d'ailleurs proche de Jacques Delors, mais un député qui était très, très agréable dans les rapports, hein. Très amusant. Et c'est surtout quand on discutait avec lui, c'était pas un émetteur d'idées, c'était... Il faisait du commentaire sur la politique. Voilà. Et donc, j'en connais des grands éditorialistes qui l'appelaient pour lui demander son sentiment. Et c'était un fournisseur de petites phrases et tout ça. Mais jamais je me suis dit, c'est un président de la République. Vous voyez. Et je ne savais même pas s'il en avait l'étoffe. Et puis, c'est quelqu'un qui n'avait jamais été ministre. Donc, il arrivait absolument sans. Il avait été maire de Tulle, mais je pense que ça n'était même pas lui qui gérait au quotidien la mairie de Tulle. Donc, il a choisi comme Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui n'avait jamais été lui-même ministre. Donc, ce sont quand même un peu des amateurs qui sont arrivés au pouvoir. Voilà.
Et d'ailleurs, vous...
Quoi ?
Vous racontez d'ailleurs les premières vacances du président dit normal. Hein. Oui. Donc les photos de son premier été à Brégançon, il avait voyagé par le train, étaient moins que flatteuses. Elle le montrait accompagné de Valérie Trier-Villers à l'époque, sur le sable au milieu des baigneurs, lui en t-shirt ample et pantalon tire-bouchon, les bidochons à la plage.
Ben oui.
Voilà. Bon, il y a Emmanuel Macron, on va... effectivement, devoir arrêter notre échange et puis renvoyer aussi les lectrices et les lecteurs. Tu le sais bien, le temps passe. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, une comparaison est possible en termes d'énergie ou c'est très différent ? Il faut nuancer.
Je pense que Nicolas Sarkozy a... au point de vue résistance physique, ils ont des similitudes. Parce qu'aujourd'hui, pour être président de la République, il faut vraiment avoir être un athlète de haut niveau. Bon. Mais je crois que la différence, c'est que le président, qui est tous les jours à la manœuvre, qui lit tout, qui travaille beaucoup, comme le faisait, mais ne dort pas en plus. C'est quelqu'un qui ne dort pas. Et on se demande d'ailleurs comment il tient. Mais je dirais qu'il est arrivé au pouvoir à 39 ans. C'était quand même un jeune homme qui reconnaît d'ailleurs. Quand il vient de dire « j'aimais la France, j'ai appris à aimer les Français ». Vous voyez, c'est quelqu'un qui est arrivé un peu hors sol, qui n'avait jamais tenu une permanence et qui était... très éloigné de la France profonde, de ce qu'étaient vraiment les Français.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Et tout cela, vous le racontez, alors avec aussi, bien sûr, à la fin, tu le sais bien, le temps passe, on sait d'où vient le titre du tome 2 de vos mémoires, puisque vous éventez le secret de votre compagnon ou mari, pardonnez-moi, Marie, Catherine.
Compagnon Guinée, puis mari, voilà.
Albin Chalandon, qu'on a connu surtout garde des Sceaux. Moi, je me rappelle de lui surtout comme garde des Sceaux. Et vous racontez effectivement ce qui a bouleversé sa vie, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est à découvrir dans Tu le sais bien, Le temps passe, le tome 2 de vos souvenirs. Merci Catherine Ney de nous avoir consacré du temps.